Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principales actualités de ce jeudi 8 octobre 2020. En Australie, il faudra suivre au moins 500 heures de cours d'anglais pour obtenir un partner de visa à partir de l'année prochaine. Aux États-Unis, Donald Trump tweete plus que jamais depuis son retour à la Maison-Blanche. Il a notamment déclaré que le fait qu'il ait attrapé le coronavirus était une bénédiction. Et à l'issue d'un match amical contre l'Ukraine, l'équipe de France de football a très largement emporté la victoire hier soir au Stade de France. Un test d'anglais, mais aussi 500 heures de cours obligatoires, c'est ce qui sera exigé à partir de l'année prochaine à tous les candidats à un partner visa en Australie, mais aussi à leur conjoint si celui ou celle-ci est résident permanent et non pas citoyen. Ces mesures doivent entrer en vigueur en milieu d'année prochaine et ne s'appliqueront qu'à ceux qui feront une demande de visa ultérieurement. Sur ABC, le ministre de l'Immigration, Alan Tudge, a expliqué que cette nouvelle règle visait d'abord à protéger les nouveaux venus en Australie.
In some cases, the husband will not want his partner or wife to learn English. And in part, that's for control reasons. And we want to encourage everybody to be able to learn English so that they can fully engage in Australian life.
Un point maintenant sur le coronavirus en Australie. 11 nouveaux cas enregistrés dans le Victoria, mais en revanche, aucun nouveau décès. La moyenne des cas sur 14 jours est désormais de 9,7, toujours un peu au-dessus de la barre des 5 cas quotidiens, qui est le seuil qui a été fixé pour déclencher le prochain allègement des restrictions et notamment le déconfinement à Melbourne. Daniel Andrews, le premier ministre de l'État, a également précisé que plus de 15 000 personnes avaient été testées au cours des dernières 24 heures.
It's not the detection of a positive case that's the problem. That's exactly what we need. It's about the spread of this virus without us knowing. That's what can set us back. So those numbers are very strong and we are truly grateful to each and every one of those more than 15,000 Victorians who came forward just a little bit more than 24 hours ago.
La frontière de l'Australie, méridionale est-elle un tout petit peu moins difficile à franchir? D'abord pour les habitants du Victoria régional, pour qui la zone tampon a été étendue à 70 km de la frontière avec l'Australie méridionale et au sein de laquelle les résidents du Victoria peuvent donc se rendre dans cet état, s'ils disposent d'un laissez-passer. Et pour ceux qui viendraient de Nouvelle-Galles du Sud par la route, ils sont désormais autorisés à arriver via Sturt Highway, qui passe notamment par Mildura, dans l'état du Victoria, mais à condition de ne surtout pas s'y arrêter. Il faudra rouler tout droit entre le passage de la frontière des Nouvelles-Galles du Sud directement jusqu'à celle d'Australie méridionale. Et en revanche, ça se complique un petit peu pour la réouverture de la frontière du Queensland à l'état de Nouvelle-Galles du Sud, puisque, vous le savez, mercredi, on a détecté 3 nouveaux cas après 12 jours consécutifs sans aucune transmission communautaire. Or, l'état du Queensland exige 28 jours consécutifs sans aucun nouveau cas comme préalable à la réouverture de ses frontières. Le Queensland a néanmoins accordé un délai de 48 heures, donc il n'en reste plus que 24 maintenant, à la Nouvelle-Galles du Sud pour identifier l'origine de ces nouveaux cas avant de remettre son compteur à zéro. Et les autorités sanitaires de Nouvelle-Galles du Sud appellent par ailleurs tous ceux qui ont dîné au restaurant Ripples dans le quartier de Milsons Point le samedi 3 octobre entre 20h et 22h30 à se faire tester au plus vite. Même consigne pour ceux qui se sont rendus au garage Mazda dans le quartier d'Artamon, également dans le nord de Sydney, entre 7h30 et 9h30 du matin vendredi dernier. Gladys Bérégé-Client, qui dirige l'État, estime pour sa part que les entreprises pourraient faire preuve de plus de prudence.
It makes the job of our contact tracers that much more difficult if businesses aren't doing the right thing. And I have no patience anymore for people who aren't doing the, for businesses in particular who aren't doing the right thing. We can't have a few people, let down the whole community.
Et à Canberra, il y aura bientôt un nouveau Premier ministre des Finances. L'actuel Matthias Cormann, qui occupe ce poste depuis 7 ans, va prendre sa retraite politique dans le courant du mois d'octobre. Mais Scott Morrison a choisi de le nommer comme candidat pour devenir secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. C'est l'actuel ministre du Commerce, Simon Birmingham, qui devrait le remplacer aux finances. Quant à Scott Morrison, il estime qu'il n'y a pas de meilleur candidat que Matthias Cormann, qui est né en Belgique, pour prendre la direction de l'OCDE.
The OECD brings together most of the European economies, but it also brings together the economies of North America and the Asia Pacific as a truly global organization and a voice from the Asia Pacific, which will increasingly be the center of the global economy, a voice that understands this region as well. Through our traditional relationships with both Europe and North America, we think is just what the OECD needs.
Aux États-Unis, depuis son retour à la Maison-Blanche mardi, Donald Trump est plus actif que jamais sur Twitter. Il s'en est pris très violemment à son rival dans la course à la présidentielle, Joe Biden. Et malgré les assurances de son médecin personnel, des doutes persistent également sur son état de santé. On fait le point avec Anne Corpet de Radio France Internationale.
À la traîne dans les sondages, coincé dans les quartiers résidentiels d'une maison blanche assiégée par le coronavirus, Donald Trump manifeste sa fureur sur Twitter et attaque Joe Biden avec une hargne inégalée. « C'est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait », a-t-il tweeté avant d'ajouter. « Les médias essayent de le protéger. Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible quotient intellectuel, ne sont jamais mentionnées. » Le président est manifestement d'une humeur versatile, mais il est en pleine forme, a assuré ce matin son directeur de cabinet, Mark Meadows.
Oui, il va très bien. On a passé du temps hier à travailler très dur depuis la résidence et je peux vous dire qu'il est pleinement engagé et qu'il se sent très bien.
Mais le torrent de messages présidentiels qui inonde son fil Twitter suscite quelques inquiétudes. Même la chaîne de télévision Fox News, pourtant favorable à la Maison-Blanche, a souligné que l'anxiété, l'agitation, les changements d'humeur et l'agressivité figuraient parmi les effets secondaires possibles du traitement administré à Donald Trump. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et après les invectives, Donald Trump a également publié une vidéo il y a quelques heures sur Twitter dans laquelle il chante les louanges d'un médicament qui s'appelle Regeneron et qu'il a promis de rendre gratuit pour tous les Américains. Ce médicament, il lui a été administré pendant sa convalescence et il en a donc conclu, en vertu des résultats apportés par ce médicament, que le fait qu'il ait attrapé le coronavirus avait en fait été une bénédiction. Écoutez ça.
I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it. I heard about this drug. I said, let me take it. It was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked. Incredible.
Et puis, il y a quelques minutes a débuté le débat entre les vice-présidents Mike Pence d'un côté et la sénatrice démocrate Kamala Harris de l'autre. Le débat entre les vice-présidents sont généralement ceux qui intéressent le moins les électeurs américains. Mais ça pourrait être différent cette année car Mike Pence, le vice-président sortant, a été très impliqué pour sa part dans la réponse sanitaire aux États-Unis à la pandémie de coronavirus. Et de l'autre parce que Kamala Harris, si Joe Biden est élu, serait la première femme, qui plus est la première femme de couleur, à accéder à ce poste. En France, nouveau rebondissement dans l'affaire Théo, en référence à ce jeune homme d'Aulnay-sous-Bois qui avait été gravement blessé lors d'une intervention policière dans son quartier. Le parquet a annoncé le renvoi de 3 policiers aux assises. Et s'il a rejeté la qualification de viol aggravé, il a en revanche retenu celle de violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette décision du parquet confirme la version de Théo d'après son avocat, maître Antoine Vey. Il a été interrogé par Christine Ziebert pour RFI.
C'est totalement cohérent avec ce que Théo et donc la victime avaient déclaré dès le premier jour de l'information judiciaire, à savoir qu'il est victime de violences policières graves. Et ce que dit aujourd'hui le parquet, c'est que l'information a établi des charges suffisantes pour le démontrer et justifier un procès d'assises. effectivement, une matraque policière a été introduite dans la zone périanale de la victime sur 10 centimètres. Donc après, peu importe, j'ai envie de dire comment juridiquement on qualifie ça. Ce qui compte, c'est que la nature criminelle des faits ait été retenue. Et deuxièmement, ce qui comptera à la fin, c'est que la justice soit faite pour la victime notamment. Et nous, nous l'avons toujours dit, c'est évidemment beaucoup plus grave quand on est un policier de commettre des violences d'une telle nature. Maintenant, il ne s'agit pas de faire le procès de la police dans son intégralité, mais au contraire, celui des violences policières, qui est un comportement tout à fait spécifique et qui malheureusement existe en France.
Un mot de football, l'équipe de France jouait hier soir contre l'équipe d'Ukraine, un match amical de préparation pour la Ligue des Nations. Et les Bleus ont remporté une victoire facile au Stade de France, exactement ce qu'il fallait pour faire le plein de confiance. Écoutez le compte-rendu d'Antoine Grenier pour RFI.
7-1, large, très large victoire de l'équipe de France face à une Ukraine très diminuée par les cas de Covid, mais également les blessures antérieures. 7-1, il faut remonter à juin 2014 pour trouver des Bleus aussi prolifiques. C'était un match contre la Jamaïque, match amical, et une victoire des Bleus 8-0. Mais ce soir, tous les regards étaient tournés évidemment vers Olivier Giroud, pour qui c'était le match de gala, sa 100e sélection. Pour l'occasion, il était capitaine, l'attaquant de Chelsea, et il a honoré cet événement de 2 buts à la 24e minute. D'abord, pour se permettre, excusez du peu, d'égaler Michel Platini au classement des buteurs. Et puis ensuite, à la 34e minute, pour se permettre, excusez du peu, de dépasser Michel Platini. Olivier Giroud, désormais 2e meilleur buteur des Bleus, derrière Thierry Henry. Également à noter dans cette soirée tricolore, le premier but en bleu d'Eduardo Camavinga dès la 8e minute, la petite pépite rennaise qui devient ainsi le plus jeune buteur français de l'après-guerre. Bref, une bonne soirée au niveau des records pour l'équipe de France.
Et pour finir, la météo de ce jeudi en Australie, 22 degrés sous la pluie à Perth, 17 degrés à Adélaïde, de la pluie aussi à Melbourne où il fait 19 degrés. Le temps est plus changeant à Sydney entre grisaille et grand soleil, mais en tout cas la température maximale attendue aujourd'hui est de 30 degrés, 27 degrés et un ciel nuageux à Brisbane et jusqu'à 33 degrés à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.